Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition où l'on discute sur comment optimiser sa nutrition pour le crossfit afin de performer sur le long terme, que ce soit à la boxe ou en dehors. L'objectif est d'aider un maximum d'athlètes avec une nutrition sans restriction et frustration. Partage et savoure! Bienvenue à toutes et à tous dans ce mardi live où aujourd'hui on décortique quel est le plus gros problème que vous rencontrez, qui est la faim et pourquoi ça peut gâcher vos résultats ou même être contre-productif. On va tout d'abord commencer avec une question pour celles et ceux qui sont dans le chat, celles et ceux qui sont dans le Zoom. Est-ce que vous pouvez me dire si, quand vous avez déjà fait des expérimentations en termes d'alimentation, est-ce que vous avez déjà eu faim? Est-ce que la faim, c'est quelque chose que vous connaissez? Je veux bien que vous mettiez dans le chat, en sachant que pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, nous avons un groupe Facebook dans lequel nous faisons effectivement des lives. Vous pouvez rejoindre les lives de deux manières. Première manière, soit directement sur Facebook parce qu'on les caste en même temps, ou directement dans le lien Zoom qui est toujours dans le groupe Facebook et vous pouvez participer en direct, poser vos questions, venir interagir. L'objectif de ce live, c'est justement de répondre à vos questions. D'accord ? Donc, à chaque fois, il y a 30 minutes de concept, d'accord ? On va évoquer un concept ensemble. Et après, on part sur des questions-réponses. C'est donc le moment de venir poser vos questions, en sachant que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre entre midi et deux. Et ça, c'est super chouette. Donc, tous les mardis, on a un live sur un sujet précis. Tous les mardis à 13h. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien du groupe sera dans la description de l'épisode ou de la vidéo YouTube. Et si vous nous regardez sur Facebook, sachez que vous ne pouvez pas interagir directement puisque je ne peux pas et répondre aux questions et tout ça, mais vous êtes toujours les bienvenus à venir nous rejoindre sur Zoom. Donc, à la question, est-ce que vous avez déjà eu faim? Je crois que tout le monde a déjà eu faim, ou avec carrément des pulsions pendant les sèches horribles. Donc là, on est bien d'accord, tout le monde a déjà vécu ce sentiment de faim quand on fait attention à sa nutrition. Et c'est important pour moi de vous le dire tout de suite, en fait, la nutrition ne doit pas être un synonyme de « je vais avoir faim ». D'accord ? Si c'est le cas, c'est qu'on est dans des pratiques assez restrictives et nous, en tant qu'athlètes du quotidien de CrossFit, on n'a pas besoin de tomber dans ces pratiques restrictives. Si vous avez des catégories de poids à respecter parce que votre sport c'est plutôt de l'haltérophilie, de la boxe, du judo, et que vous avez des catégories de poids à respecter, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes obligé de passer par des pratiques restrictives. Ce qui est dommage à mon sens, puisque je pense qu'on peut faire les choses un petit peu mieux en les planifiant correctement, mais des fois ça arrive. Si, par exemple, vous êtes en train de vous préparer pour une compétition de bodybuilding ou, en tout cas, l'aspect physique a énormément d'importance et que vous devez être extrêmement, extrêmement, extrêmement sec ou sèche, il y a des pratiques restrictives qui vont en découler, bien entendu, et c'est dommage. Nous, dans nos sports, on n'est pas censé avoir faim, d'accord ? On est censé pouvoir avoir suffisamment de carburant pour aller performer. C'est extrêmement important qu'on en parle, puisqu'en fait, il ne faut pas tout mélanger, d'accord ? On n'a pas de catégorie de poids à respecter. On a un ratio poids-force qu'on veut respecter parce qu'on veut être le plus efficace possible, que ce soit en gym, en haltéro ou en endurance, mais on n'a pas de catégorie de poids à respecter à proprement parler. Donc c'est important déjà de mettre ça, si on a faim, si vous avez faim dans votre alimentation, si en gros vous avez l'impression qu'il va falloir manger vos doigts, c'est qu'il y a un souci avec votre alimentation, clair, net et précis. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'effectivement, oui, hein, ils ont eu faim et que c'est compliqué. Après, il y a aussi Fabien qui nous dit, à juste titre, que c'est souvent quand il s'ennuie. Et c'est pour ça qu'on va en discuter aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que la faim et comment la reconnaître, comment identifier tout ça et tout. Allez. Hop, c'est parti. Donc, la faim, déjà, en fait, on va essayer de déterminer un petit peu qu'est-ce que la faim, à quoi ça correspond, et je vais vous donner quelques concepts. Donc on va reprendre un petit peu la base ensemble. Déjà, votre corps a besoin d'énergie. Jusqu'à là, on est très clair. Il a besoin d'énergie pour faire des activités physiques, d'accord, que ça soit sportive ou non sportive. Donc sportive, on va être dans le crossfit et tout ça. Non sportive, on va être dans se lever, aller emmener les enfants à l'école le matin, on va être à aller au travail, travailler, tout ça, on va être dans des activités non sportives. Et notre corps brûle des calories. Pour que on puisse avoir suffisamment d'énergie, il faut qu'on consomme suffisamment de calories pour pouvoir avoir la capacité de pouvoir performer, d'accord ? Et donc, produire suffisamment d'énergie dans la performance. Donc, il faut qu'on consomme suffisamment de calories pour pouvoir en dépenser suffisamment. Généralement, comment les trois quarts des personnes fonctionnent quand elles veulent perdre du poids, elles vont augmenter leur activité physique et elles vont descendre leurs calories. D'accord? Ce qui va créer en fait un déficit pour celles et ceux qui ne nous écouteraient. Je suis en train de bouger mes doigts, mes mains, l'une vers le bas, l'autre vers le haut. L'activité physique va être extrêmement importante et la quantité d'aliments consommés va être extrêmement basse, ce qui crée un déficit drastique. Les trois quarts du temps, ça va fonctionner un petit moment, donc vous allez perdre du poids. Généralement, vous allez aussi perdre beaucoup de masse musculaire, mais c'est un autre sujet. Donc, vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir bien pendant quelques temps, et puis à un moment donné, il va y avoir un plateau. D'accord? Mais dans ce processus de drastique, ça veut dire que vous allez brûler beaucoup plus de calories que vous allez en consommer, vous allez aussi avoir faim. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, c'est normal. Et effectivement, c'est normal. Mais est-ce que c'est la norme qu'on veut garder? Non. Parce qu'avec ce problème, c'est qu'avoir faim tout le temps, c'est un signal. En fait, c'est un signal du corps qui nous permet de nous dire, OK, j'ai pas assez à manger. En fait, c'est clair, net et précis. Tu me demandes de sortir trop de calories par rapport à ce que j'arrive à recevoir. Ça, c'est clair. La faim, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai faim parce que tu ne me donnes pas assez de calories pour la performance que tu cherches. C'est ça la faim, d'accord? Le problème, c'est que quand on n'écoute pas sa faim de manière assez répétée sur le long terme, elle finit par disparaître. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait plus si on a faim ou on n'a pas faim, on ne sait plus si on n'a plus faim après le repas ou pas parce qu'on a perdu la satiété. Et je vous parle d'expérience parce que moi, j'ai perdu la satiété pendant des années. C'est-à-dire que j'étais dans telle pratique restrictive il y a une dizaine d'années à cause d'un coach peu formé. Et incompétent sur la nutrition, que en gros, j'ai créé des gros problèmes alimentaires et en particulier sur mes indicateurs. C'est-à-dire que j'avais tout le temps faim ou voilà, je ne savais pas trop comment. Mon cerveau ne fonctionnait plus sur les bons signaux et surtout, j'avais plus la satiété. C'est-à-dire que je pouvais manger mon assiette et puis je pouvais en manger une deuxième et puis une troisième jusqu'à en être malade et continuer à manger. D'accord? Donc la satiété, c'est le fait est, c'est un signal que notre corps. Et notre cerveau nous envoie en disant, c'est bon, ton estomac est suffisamment plein, t'as pas besoin de manger plus. Le problème, c'est quand on a perdu ça, bah, en fait, on n'est pas capable de s'arrêter. Et c'est super compliqué d'arriver à se dire, OK, là, j'ai suffisamment mangé. Donc après, on utilise des repères visuels, d'accord? C'est pour ça qu'on utilise beaucoup chez HPP Nutrition la technique visuelle de l'assiette, parce que ça nous permet d'avoir un certain repère. D'accord? Mais de plus avoir ces signaux-là, c'est compliqué. Puisqu'en fait, on est un peu perturbé, on ne sait pas si vraiment on mange dans les bonnes quantités ou pas. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous êtes dans cette situation que vous n'avez plus du tout la satiété et que en fait, vous êtes un peu perdu sur le sujet, il va falloir essayer de construire son assiette et essayer de respecter ça et de voir comment le corps évolue en fonction des progrès. Un corps qui perdrait trop vite, par exemple, serait un corps qui serait en trop gros déficit calorique. OK? Donc ça, c'est hyper important. Donc, quand on a faim de manière répétée, il peut y avoir plusieurs choses. Et c'est ce que Fabien nous a attiré notre attention. Ça veut dire qu'on peut être en s'ennuyer, d'accord? Donc ça va être une faim plutôt, je vais occuper mes mains, je vais occuper mon cerveau, je m'ennuie, j'ai faim, d'accord? Ça, c'est un premier truc. Mais c'est pas de cette faim-là dont on parle. Après, vers la faim, j'ai soif. En fait, notre cerveau, des fois, ne fait pas la distinction entre « j'ai faim, faim », genre, j'ai envie de manger et je suis déshydraté. Donc, et des fois, il va nous envoyer un signal en mode t'as faim, mais en fait, c'est juste qu'on a soif. Donc, il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est un conseil que je vous donne, avant d'aller piquer dans un placard quelque chose, déjà buvez un grand coup, juste pour être sûr que ben, c'est le bon signal. D'accord? Si vous continuez à avoir faim, hypothétiquement, c'est le bon signal. Ensuite, il y a aussi la faim de je vais bientôt manger. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la faim où, en gros, vu comme vous mangez généralement à horaire fixe, alors pas tout le monde, on sait qu'il y a des personnes qui ont des horaires un petit peu décalés, tout ça, mais généralement vous mangez à horaire fixe, votre corps va commencer à sécréter des sucres, les sucs gastriques, pour justement venir à les digérer. Donc en fait, votre corps généralement, va vous dire on a faim une demi-heure avant l'heure du repas. Pourquoi? Parce qu'il est là en mode OK, on est prêt. D'accord? On est dans les starting blocks, du moment où tu nous envoies la nourriture, on est prêt. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est normal d'avoir faim au moment des repas. D'accord? C'est que le corps fonctionne correctement, il est capable de venir produire tout ce qu'il va faire pour la digestion et tout ça. Donc ça, c'est assez normal. Nous, ce qu'on veut, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la faim qui nous tiraille au ventre et qui va créer des fringales. D'accord? C'est la sous-nutrition. C'est le fait de brûler beaucoup plus de calories qu'on est capable d'en consommer et qu'on veut en consommer. D'accord? C'est cette faim qui, en gros, arrive plusieurs fois dans la journée. On n'est pas bien, on a souvent faim et vraiment, on se sent un peu faible, on n'a pas d'énergie. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler la sous-nutrition. Et il faut savoir que 80%, même, ouais, 80% des athlètes que je suis et qu'on suit chez HPP Nutrition sont en sous-nutrition. En fait, on veut faire tellement bien, on veut tellement perdre du poids ou perdre de la masse graisseuse et être hyper efficace et efficient sur nos WOD qu'on a tendance à se dire bah, je vais vraiment consommer moins, comme ça je vais perdre, je vais sécher et tout ça. Le problème, c'est qu'on rentre dans un cercle vicieux de la sous-nutrition. La sous-nutrition, on est bien d'accord, donc c'est un déficit drastique qui est intenable sur le long terme et qui est contre-productif. C'est-à-dire que si on mange beaucoup moins que ce qu'on brûle, ça ne tiendra pas sur le long terme. Clair, net et précis. Il y a un moment donné où le corps va dire, OK, très bien, vu comme je ne mange pas assez, je vais stocker un maximum de ce qu'on va me donner. C'est-à-dire que c'est un corps qui va pas fonctionner de manière normale et qui va stocker de manière anormale. D'accord? Donc ça, c'est les effets de la sous-nutrition. Alors, le cercle vicieux, il est très clair. On part sur des restrictions drastiques qui vont partir sur de la frustration et de la faim, clair, net et précis. À un moment donné, cette faim et cette frustration vont provoquer des compulsions alimentaires, des fringales irrépressibles, intenables. Donc, on va finir par craquer, c'est ce que les gens appellent craquer. Et après, on va partir sur de la culpabilité et le corps va stocker. Et donc, qu'est-ce que généralement on fait? On part sur plus de restrictions, plus de frustration et de faim, plus de compulsions alimentaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il faut à un moment donné briser ce cercle vicieux et d'arrêter de partir sur des restrictions drastiques. Pour perdre de la masse graisseuse, il n'y a pas besoin de partir dans des trucs drastiques. Il y a besoin de faire attention à ses protéines, il y a besoin de faire attention à son hydratation, et on va y venir. Est-ce que pour l'instant, c'est tout clair pour tout le monde? Ouais, super. Cool. C'est bon, tout le monde me suit? C'est chouette. Fabien nous dit dans le chat que il pense que c'était son cas, qu'en gros, en fait, avant, il mangeait qu'une seule fois par jour. Et le problème de manger qu'une seule fois par jour, c'est que la probabilité d'avoir suffisamment à manger sur seul repas, il va pas, généralement, il ne va pas manger 2200, 2300, 2400 ou 2500 calories sur un seul repas, selon ses besoins. Donc en gros, à manger qu'un seul repas par jour, effectivement, on est forcément en sous-nutrition. Et plus la sous-nutrition est sévère, plus en fait le corps va stocker. Et c'est vrai que c'est une image que je donne souvent, c'est les gens qui stockaient le PQ là, pendant le Covid. Ils faisaient des stocks de PQ parce qu'ils avaient peur, ils avaient l'impression qu'ils n'auraient plus jamais de PQ de la vie. Et ben notre corps, c'est un peu pareil. Quand en gros, on ne mange pas suffisamment, et ben il va stocker. Il va se dire, OK, c'est la guerre, c'est la famine, je vais stocker à fond. Ça veut dire que c'est dans ce cas de figure où vous avez l'impression que qu'importe ce que vous mangez, votre corps, il stocke. Et ben c'est peut-être que vous l'avez sous-nutri pendant tellement longtemps que pour l'instant, il est bloqué. D'accord? Donc ça, enfin, c'est extrêmement important de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, puisque ça permet aussi de venir identifier un problème et de pouvoir travailler dessus. OK? OK, au top. Donc, comment on fait? Là, vous me dites, OK, moi, je suis coincé, je suis exactement dans cette situation, je me rends compte que je mange probablement pas assez, ce qui est vraiment le plus fréquent hein, chez nous. Hein. Je mange vraiment pas assez, comment je fais? Quelles sont les étapes dans lesquelles je vais pouvoir débloquer mon système? Alors déjà, on va déjà mettre un peu les pieds dans le plat. C'est extrêmement long, d'accord? Ça veut dire que vous ne pouvez pas espérer avoir martyrisé votre corps pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'en 3 mois, ça se règle. D'accord? Déjà, c'est la première chose qu'il va falloir qu'on se dise. C'est que ça prend du temps. Vous avez bloqué votre corps, d'accord, avec des pratiques restrictives, et maintenant, il va falloir le débloquer. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de défaire un nœud de pêche. Alors moi, je pêche, j'aime bien ça me détend, et c'est quelque chose que je partageais avec mon grand-père quand j'étais petite et que j'aime bien faire avec mes enfants. En gros, vous avez votre ligne de canne à pêche, d'accord? Vous la mettez dans l'eau, vous le sortez, ça s'en mêle, ça a pris 4 secondes pour s'en mêler, et par contre, vous avez passé 1 heure et demie à démêler le fil de pêche. Et bien là, on est pareil. Vous avez passé du temps à martyriser votre corps, à le bloquer, à le sous-nutrir, ça va prendre encore plus de temps de le débloquer. D'accord? Il faut être extrêmement clair là-dessus. C'est important, puisque j'ai beaucoup de gens qui arrivent. En fait, j'en ai de moins en moins parce qu'on commence à. Je pense que le fait est qu'on en parle beaucoup. Ça fait que ça libère un peu la pensée. Mais j'ai pas mal de gens encore qui viennent me voir et qui me disent, oui, bon, bah, c'est vrai, j'ai fait des pratiques restrictives ces 5 dernières années, mais là, dans 3 4 mois, c'est bon, quoi. J'ai mes résultats, quoi. C'est bon. Bah non. C'est probablement pas bon. Tu peux pas avoir martyrisé ton corps pendant 5 ans et espérer que d'un coup, il se dise, ah bah, c'est bon, Pépito, il a compris. C'est bon, je vais me débloquer en 2 3 semaines ou même en 2 3 mois, d'accord? C'est extrêmement, extrêmement important. Donc, première étape, la patience. Sur le schéma que je vous donnerai, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, on a un petit récap. Tous les mercredis, il y a un petit récap avec quelque chose de visuel qui reprend justement les grandes thématiques d'aujourd'hui. Donc, sachez que patience et constance, je l'ai mis en 4, mais en vrai, j'aurais pu le mettre en 1 sans aucun souci. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais comment on fait de manière concrète? Donc, déjà, première étape, à mon sens, outre la patience et la constance, c'est d'augmenter les protéines. Pourquoi? Parce que les protéines ont ce côté hyper avantageux, c'est que déjà, personne ne se dit « je vais grossir en mangeant des protéines ». Il y a la team « les glucides font grossir », il y a la team « les lipides font grossir », mais il n'y a jamais la team « les protéines font grossir ». Donc ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire que psychologiquement, quand on va augmenter les protéines, on ne va pas avoir une appréhension avec ça. Et puis les protéines, c'est quand même génial, ça va construire de la masse musculaire, donc on va améliorer notre apport poids-force. Trop bien. Ça permet aussi de améliorer toute la qualité de tout ce qui est cheveux, peau, tout ça. Donc c'est quand même chouette. Ça va nous permettre aussi d'avoir la satiété, d'accord? Donc les protéines sont extrêmement satiétantes. Donc ça c'est hyper bien quand on a perdu les signaux. Et ça va aussi nous permettre de pouvoir récupérer et améliorer notre composition corporelle. Donc les protéines c'est vraiment une base. D'accord? C'est dommage qu'on en sous-consomme aussi. Et donc, les protéines, c'est une base. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir entre 1,8 et 2 grammes de protéines par poids de corps, grosso modo, dans ces targets. Et ça, c'est la base. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de voir un petit peu déjà où vous en êtes en termes de protéines. Donc, première base, vous augmentez vos protéines. Et en plus, ces temps-ci. Nous, chez HPP Nutrition, on a décidé de vous créer un guide. Non, pas un guide. Pas deux guides, pas trois guides, mais bien quatre guides. Ouais, j'ai l'impression d'être les têtes à claque. Quatre guides pour vous aider justement à augmenter vos protéines. Donc, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir directement sur le groupe Facebook où il y a justement cette offre. Vous commentez directement sous le post et vous dites moi je suis intéressé, moi je suis intéressé et je vous envoie tout ça. D'accord? Donc, il y a quatre guides sur comment faire pour augmenter ses protéines. Donc, ça, c'est le premier astuce. Deuxième astuce, c'est utiliser la construction visuelle de l'assiette. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas obligé de peser et souvent, peser ses aliments crée énormément d'anxiété. Et d'ailleurs, pour augmenter ses protéines, il n'y a pas besoin de peser, en particulier si vous avez ces quatre guides. Donc, la construction d'assiette va venir visuellement vous aider à vous repérer, de savoir si vous faites correctement les choses. Généralement, la construction d'assiette, on est très clair, on est sur 45-50% de légumes. Et après, sur les trois tiers qui restent, on a un tiers de protéines, un tiers de féculents et un tiers de matières grasses qui vont permettre soit d'assaisonner la viande ou de la cuire, soit d'assaisonner les légumes. Donc ça, c'est la construction d'assiette. Généralement, on a perdu aussi un peu tous ses repères quand on a été dans des pratiques drastiques ou qu'on a eu toujours faim. C'est qu'en gros, on est habitué à respecter des targets qui ne sont pas les bonnes. Soit on est un peu dans le flou total, on ne sait pas quand manger, comment manger et tout. Donc déjà, construire son assiette visuellement, c'est extrêmement important. Ensuite, troisième tips que j'ai envie de vous donner, c'est créer de la flexibilité. Pourquoi? Parce que généralement, si on a eu faim, c'est qu'on a été extrêmement rigide avec sa nutrition. On veut être le ou la plus parfaite possible. J'ai été là-dedans, hein, donc j'en parle avec beaucoup d'empathie, hein. Je sais exactement ce que c'est. On a été hyper rigide, on a fait hyper attention à notre nutrition, on n'a pas les résultats qui en découlent, et donc on se dit bah je vais encore serrer plus la vis, je vais rien manger, je vais un bol de glaçon et ça ira très bien, et je vais surtout pas manger de produits, enfin de produits qui me feraient plaisir comme le chocolat, comme les frites, comme je sais pas quoi, je vais être hyper strict. Et en fait le problème à créer ça, c'est qu'on va venir renforcer cette spirale, on va encore se sous-nutrir, et en fait on va aussi créer énormément de frustration. Et bah c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc il faut créer de la flexibilité dans son alimentation, c'est-à-dire que aucun produit n'est à bannir. Du moment où vous avez un diète, un coach nutrition, un soi-disant professionnel de santé, ou quoi que ce soit qui vous dit on va déjà bannir une catégorie entière d'aliments, d'accord? Je vous demande de fuir. Clair, net et précis. Aucun aliment ne doit être banni. Alors, on peut faire, par exemple, un jeûne d'alcool pendant 28 jours, machin, tout ça, sans aucun souci. Mais du moment où on part sur du long terme et qu'on bannit une catégorie d'aliments, c'est non. OK? Donc ça, c'est hyper important. Donc, créer de la flexibilité, comment on fait? Ben, en fait, on essaye de consommer des produits de qualité, d'accord? Donc, on va partir sur cette construction d'assiette avec des produits de qualité qui rentrent dans nos objectifs 80% du temps. Et on va essayer pendant 20% du temps de moins se prendre la tête, c'est-à-dire des fois c'est sur un repas. On va peut-être se faire une soirée pizza avec les copains avec une bière, boum, ça y est, on est un peu flexible, sans se prendre la tête, sans venir resserrer la vis le lendemain. En fait, des fois, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais moi je fais hyper attention à la qualité de mes aliments, je veux que ça soit tout le temps qualitatif et tout. Oui, je suis complètement d'accord. Mais des fois, en fait, ça fait pas juste du bien au corps. Il y a certains aliments qu'on va créer, on va appeler ça des aliments plus flexibles, qui font du bien à la tête. Et ça, c'est extrêmement important. Puisqu'en fait, on a aussi besoin de déstresser. On a aussi besoin de redescendre dans les tours. Et des fois, on va venir chercher une relation sociale. On va venir chercher un moment rien qu'à nous. Et ça, c'est hyper important. Alors, attention de ne pas prendre l'inverse non plus et de ne pas partir dans la nourriture émotionnelle. On est bien d'accord sur le sujet. Mais créer de la flexibilité, c'est extrêmement important. Je vous donne un exemple. J'ai une personne dans le programme. Chez HPP Nutrition, on a un programme individuel qui s'appelle le Nutriflow. Et dans le Nutriflow, j'ai une personne qui a beaucoup de stress et qui a des grosses tendances à grignoter et que c'est compliqué pour cette personne. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on veut créer de la flexibilité pour que cette personne puisse avoir des moments à elle où en fait elle se pose sur le canapé et elle peut déstresser et se sentir bien, c'est son moment. Et bien, pour ce faire, on lui a mis un carré de chocolat noir tous les jours. Tous les jours, elle a son carré de chocolat noir. C'est sa flexibilité, ça lui permet de se détendre, ça lui permet de pas partir dans des pratiques restrictives, ça lui permet de pas non plus se retrouver avec des fringales et des compulsions alimentaires qu'on veut pas, d'accord? Donc est-ce que c'est la solution pour tout le monde? Non, probablement pas, mais c'est du cas par cas. Il faut créer un style de flexibilité qui ne découle pas de la culpabilité et qui ne viendrait pas entraîner une restriction encore plus importante derrière, d'accord? C'est extrêmement important. À l'époque, quand je faisais du bodybuilding et que j'avais cette alimentation hyper restrictive, j'arrêtais pas de chercher sur internet combien de cheat meals, c'était quoi la limite et tout. Je passais ma journée, parce que j'avais faim en fait, hein. Je passais ma journée à essayer de trouver des infos là-dessus. Alors, tout le monde disait un cheat meal, il y en a d'autres qui disaient un cheat day. Le problème du cheat meal et du cheat day, c'est que, alors, pour ceux qui savent pas, le cheat meal et le cheat day, c'est un repas de triche, d'accord? Cheat, ça veut dire tricher. C'est un repas de triche, soit sur le repas, soit sur la journée. Le cheat day, c'est sur la journée. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on vient attendre cette journée-là tellement fort que généralement, on surconsomme. Et que, en gros, le lendemain, on se dit, oh là là, j'ai vraiment complètement abusé avec mon cheat meal ou mon cheat day. Et on vient resserrer la vis. Et on repart. Frustration, faim, cheat meal, et on y retourne, d'accord? Et ça, on veut absolument l'éviter. Il vaut mieux incorporer des aliments qui nous font plaisir au quotidien. Poum, poum, poum. Ça veut dire un carré de chocolat par-ci, un cookie par-là, une bière avec le copain ailleurs, plutôt que se dire, bah, samedi, c'est mon jour de triche, et samedi, c'est toutes les portes ouvertes, d'accord? Puisque dans ces cas-là, on aura tendance à vraiment surconsommer et à vraiment serrer la vis derrière. Donc attention là-dessus, c'est important que je vous en parle sur la flexibilité. Quatrième point, c'était la patience et la constance qu'en fait on pourrait vraiment mettre en premier. Et sur le cinquième tip que je voulais vous donner, c'était utiliser les biofeedbacks. Alors, les biofeedbacks, qu'est-ce que c'est? En nutrition, et je pense dans le sport en général, c'est important d'utiliser des marqueurs de progrès. Que ça soit votre PR en squat, votre 1RM squat, votre 1RM deadlift, que ce soit votre temps de frâne, que ce soit le nombre de muscle-up que vous arrivez à enchaîner. Bref, qu'importe ce que c'est, il faut suivre ses progrès pour avancer, d'accord? Ne pas savoir où on en est, ça donne un flou qui fait que ben, on finit par stagner. Donc, continuer à calculer ses frânes, ses PR en bench, ses PR en squat, ses PR en tout ça, ça nous permet de se dire, OK, je vais pouvoir m'améliorer, il y a une marge de progression et ainsi de suite. En nutrition, c'est un peu pareil pour le coup. Si on veut faire bien les choses, on va utiliser des trackers de progrès, d'accord? C'est des mesures. La balance, vous connaissez déjà, je pense, mon opinion là-dessus, mais pour celles et ceux qui nous écouteraient pour la première fois, bienvenue chez HPP Nutrition, vous pouvez balancer votre balance. La balance ne sera qu'un indicateur assez imprécis qui vous donnera un poids, une masse, mais qui vous dira pas du tout ce que c'est. Même les balances connectées, d'accord? C'est très peu fiable et il y a beaucoup d'autres marqueurs qu'on peut prendre en compte. Marqueur important, on peut prendre les mensurations, d'accord? Avec un mètre couturier, on vient les prendre toujours au même endroit, toujours dans la même condition pour voir les tendances. Ça, c'est un marqueur important. On va pouvoir aussi prendre les photos de progrès. Pourquoi? Parce qu'on vit avec notre propre corps. Même si on passe devant le miroir 10 fois dans la journée, bah en fait, on a l'habitude de notre corps. Donc, on ne va pas avoir les progrès au fur et à mesure. Avoir des photos qu'on va pouvoir placer les unes à côté des autres, ça va nous permettre de prendre du recul sur nous-mêmes et de pouvoir comparer notre physique. Alors, je dirais d'une manière objective, oui et non, puisqu'en fait, on est déjà bien émotionnellement attaché à notre physique, mais par exemple, on peut aussi les envoyer à quelqu'un en disant, est-ce que tu vois une différence? C'est important pour moi. D'accord? Donc, ça nous permet aussi d'avoir des preuves, hein, et pas des preuves dans le sens, je le justifie, mais plutôt dans le sens, j'ai un support pour que tu me donnes ton avis. Okay, donc ça c'est important. Et qu'est-ce que les biofeedbacks? Et ben en fait ça va être tout ça qui n'est pas mesurable. Ça va être tous les indicateurs que on peut avoir sur notre corps et sur nos humeurs. Nous chez HPP Nutrition on utilise pas mal de biofeedback. On va utiliser par exemple la qualité du sommeil. Est-ce qu'on a mieux dormi? On va utiliser l'humeur. Est-ce qu'on est de bonne humeur ou est-ce que franchement c'est compliqué? On va utiliser notre sensation de faim. Si on l'a, est-ce que j'ai eu faim toute la journée? On va utiliser les fringales. Est-ce que j'ai souvent des fringales? On va utiliser donc l'énergie en elle-même. Est-ce que je suis énergique ou est-ce que plutôt j'ai du mal, je suis plutôt léthargique, j'ai du mal à sortir de mon lit. On va aussi, pardon, on va aussi utiliser les biofeedbacks. Oh là là là, elle se perd. On va aussi utiliser la libido, hyper important. On va aussi utiliser la qualité de la digestion. Et ça, c'est des marqueurs qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Pourquoi? Parce que des fois, bah, ça stagne, d'accord? C'est normal, dans la nutrition, on a des progrès qui stagnent. Il va falloir trouver une autre approche. Mais on va avoir des biofeedbacks qui, eux, ne stagnent pas et qui sont au vert. Ça veut dire qu'on va avoir une humeur qui a été améliorée, on a plus d'énergie, on a des pères en folie, on va se sentir avec plus de libido, on va être avec un meilleur sommeil. Et ça, c'est des choses, c'est des victoires qu'on oublie de célébrer. Et c'est extrêmement important. En particulier sur un process qui prend du temps. Ça veut dire que des fois, ben, ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 2 ans. Et des fois, on a tendance à se dire, ah, c'est bon, ça me saoule, quoi. Tout ça pour ça me saoule. Alors qu'en fait, il faut fêter les petites victoires au fur et à mesure. Les petites victoires, il y en a partout. Que ça soit plus d'énergie sur un WOD. Que ça soit un meilleur temps sur un WOD, que ça soit plus de libido au quotidien, que ça soit une humeur bien améliorée, que ça soit plus de patience au travail ou avec ses enfants, que ça soit. Bref, il y a des petites victoires qu'il faut absolument célébrer. Sinon, la vie, elle est extrêmement triste si on se fixe uniquement sur des objectifs chiffrés de la balance. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les biofeedbacks et d'autres marqueurs qui vous permettent de vous dire, OK, peut-être que c'est pas parfait, peut-être que j'ai pas tous les centimètres qui baissent. Mais par contre, je me sens carrément mieux dans ma peau. Je vois que mon fitness, ça va mieux. Mon énergie, ça va mieux. Mon sommeil, ça va mieux. C'est quand même des indicateurs qui sont extrêmement importants à prendre en considération. Alors, dans le chat, ça a bougé un peu. Alors, c'est effectivement. Donc, Lola nous dit, c'est effectivement une question que je me posais suite à un autre de tes podcasts. Comment inverser la courbe effet yo-yo avant d'envisager un retour à la normale et à la perte de poids? Alors, c'est une bonne question, Lola, et nous, dans le programme, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. En fait, je ne peux pas te donner une réponse pour la simple et bonne raison que tout le monde est différent. Pour des personnes qui vont avoir abîmé leur corps pendant des années, ça peut prendre des années de faire une recharge. Nous, ce qu'on appelle, c'est la phase de recharge. Pour certaines personnes, ça va prendre 4 mois, pour certaines personnes, ça va en prendre 6, pour certains, ça va en prendre 8, pour certains, ça va en prendre 3. Et en fait, malheureusement, il n'y a pas de logique. J'aimerais te dire qu'il y a une logique, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de logique et ça va vraiment, vraiment dépendre de chacun, de son passé, de son métabolisme. Je sais que c'est pas la réponse que tu attendais, je ne sais pas. Et personne ne sait, en vrai. Si tu as quelqu'un qui dit alors ça prend 3 mois, c'est sûr, c'est non. En fait, on ne sait pas. On n'est pas pareil. Ton corps et le mien, on n'est pas le même. Et ton corps et celui du voisin, c'est pas le même non plus. De fait, lui, il peut prendre 6 mois, tu peux en prendre 3. On ne sait pas. Il n'y a pas de logique. Et c'est pareil, il n'y a pas de logique et puis c'est un processus qui est quand même généralement relativement long en fonction de ce que tu as pu faire. Et là, tu parlais de la sèche tout à l'heure, donc je sais. Donc ça peut prendre du temps, d'accord? Après, quand on parle de phase de recharge, ça sous-entend pas forcément de prendre beaucoup de poids. Ça peut être le cas chez certaines personnes qui ont vraiment abîmé leur métabolisme. Donc il y a une partie où à un moment donné, il va y avoir un peu de prise de poids et puis après, ça va redescendre. C'est une possibilité. Le temps que le corps nous fasse confiance. Après, chez certaines personnes, on est en phase de recharge, ils mangent plus, mais ils perdent du poids. Donc aujourd'hui, on a une personne dans le programme que j'ai chaudement félicité parce que il vient de perdre 1,2 kg et en fait, il mange 3 fois plus. Donc, Désolée, j'ai essayé de répondre à ta question le plus honnêtement possible. Si vous commencez à me connaître, maintenant vous savez que ça m'est cher, l'honnêteté, donc y a pas de bonne réponse sur le sujet. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le coup? Et est-ce que Lola, ça te va ma réponse? Enfin, autant qu'on peut. Top. N'hésitez pas, c'est le moment, d'accord? C'est le moment de poser vos questions. Pour celles et ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre des questions dessous la vidéo. Toutes les vidéos des replays sont sur l'onglet À la une. Quand vous êtes sur le groupe Facebook, vous avez un onglet qui s'appelle À la une, d'accord? Il y a multimédia aussi, je crois. Il y a plusieurs onglets. Il y en a un, c'est À la une. Si vous cliquez sur À la une, vous avez absolument tous les enregistrements de tous les lives que l'on a fait. Nathalie nous dit patience, patience. Bon, parfois, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Nathalie, c'est compliqué. C'est assez démoralisant aussi des fois, parce qu'on ne sait pas si on est vraiment sur le bon chemin. Mais par exemple, je te donne un exemple. Genre vraiment au hasard, tu vois. Quelqu'un qui pourrait passer vachement plus de pull-up, par exemple, hein, tu vois. Vachement plus de pull-up qu'il y a 6 mois, parce qu'elle a pris de la force, parce qu'elle a perdu de la masse graisseuse, et que en gros, bah, ça lui permet d'avoir un rapport poids-force beaucoup plus adapté pour sa pratique du CrossFit, bah par exemple, ça, c'est un marqueur qu'on utilise et qu'on se dit, bah, on est sur le bon chemin. D'accord? Si tu sens qu'en performance, ça rétropédale, que c'est compliqué, que tu perds en force, que t'es pas bien et machin, là, clairement, on n'est pas sur la bonne pente. Mais en fait, c'est pour ça que quand je parle de patience, je parle aussi de feedback et de biofeedback pour aller venir mesurer si on est sur la bonne dynamique, d'accord? Parce que tu as raison, c'est pas toujours facile de pas voir les chiffres avancer, mais quand on prend un petit peu du recul, et je sais à quel point c'est dur, hein, je vous le dis, mais on galère tous, hein, clair, on galère tous à prendre du recul, hein, des fois on veut juste les chiffres et on veut juste que ça avance. Mais des fois, quand on prend un petit peu de recul et qu'on se dit, oui, mais attends, j'ai fait des PR de pull-up, j'arrive à passer des toast to bar, j'ai carrément plus la patate et tout, bah ça c'est des réussites. Et c'est hyper important. Marion me dit, j'aime beaucoup ton principe des marqueurs autres que la balance setup. Ouais, c'est hyper important. J'ai déjà donné cet exemple, hein, mais dans le programme, on a une personne qui a dû perdre 2 kilos en 6 mois. Et si on s'était arrêté sur ces kilos-là et sur la balance, ça aurait été hyper démoralisant. Mais elle a aussi perdu 11 cm de tour de taille. On met ça, on met rien. D'accord? Donc c'est important. C'est important qu'on essaye de prendre du recul. Je sais que c'est dur, hein. Je dis pas le contraire et je suis quelqu'un qui s'est pesé tous les jours pendant 2 ans, donc je vois. Mais en fait, on s'aperçoit que ça joue juste sur notre humeur et sur la façon dont on va se voir plutôt que sur nos résultats. Donc la balance, moi le balance ta balance me plaît pas mal pour le coup. Puisqu'en fait, on se dit, bah, en fait, ça avance pas, sur la balance, ça avance pas, j'ai perdu, ah, ça y est, j'ai pris 1 kilo, je suis une grosse vache. C'est des réflexions qu'on se fait dans notre tête, hein. Je suis nul, j'y arriverai pas, je suis nul, je suis bonne à rien et tout, j'ai pris 1 kilo. Ouais, mais t'as aussi perdu 2 cm de tour de taille, t'as fait un PR en squat et genre, t'as des courbatures aux jambes. Forcément que t'as pris ton kilo, forcément. L'acide lactique et tout ça, tu pèses plus lourd, ton muscle est plus gonflé, forcément que tu pèses plus lourd. Par contre, t'as aussi perdu 2 cm de tour de taille. Et ça, c'est des feedbacks qui sont importants. D'accord? Et le PR, et les centimètres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là-dessus ou sur n'importe quoi d'autre, hein, pour le coup. N'hésitez pas à rebondir. L'objectif de ces lives, c'est en fait de vous donner la possibilité de pouvoir poser vos questions. De pouvoir traiter d'un sujet, de pouvoir avoir aussi la parole pour que vous puissiez avoir des réponses, alors le plus précises possible ou en tout cas les plus honnêtes possibles. Donc juste pour récap, la faim, on n'en veut pas, d'accord? Si vous avez une alimentation qui fait que vous avez faim de manière constante, d'accord? C'est que vous ne mangez pas suffisamment. La sous-nutrition va venir jouer contre vous, puisque votre corps va finir par rentrer en mode guerre et va venir par stocker les moindres trucs que vous allez manger. Donc le jour où vous allez vous faire une pizza entre potes, il va stocker. Le jour où vous allez vous faire même une salade, il va stocker. Okay? Donc c'est des métabolismes qui sont brisés. Donc attention là-dessus, si vous êtes dans la sous-nutrition et que votre métabolisme est brisé, ne venez pas vous sous-nutrir encore plus, ça ne fonctionnera pas. On a déjà aidé une athlète dans le programme qui mangeait 900 calories jour. 900 calories jour, c'est grosso modo les besoins d'un enfant de 11 ans, d'accord? 11-10 ans. Ok? Donc, ça peut pas fonctionner, encore moins avec quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par jour. Donc, attention là-dessus. La sous-nutrition n'est pas la réponse pour avoir des résultats durables. Encore une fois, on parle sur des résultats durables, d'accord? C'est-à-dire que si demain vous voulez faire une sèche et que vous voulez avoir des pratiques restrictives et tout, parce que c'est sur ce moment-là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur des catégories de poids, machin et tout, ça c'est un autre problème. Là, on parle sur des résultats durables et une relation sereine à la nutrition. Donc ça, hyper attention. Donc comment s'en sortir? On augmente les protéines, on fait une construction d'assiette, ce qui est visuellement, qui nous permet de nous situer visuellement. On crée des moments de flexibilité qui ne soient pas un cheat meal ou un cheat day qui n'ont aucun intérêt, mais plutôt sur une soirée, une soirée, n'importe quoi, une soirée, un dessert, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir pour éviter de surconsommer. On met aussi en avant la patience, extrêmement important, et la constance. Encore une fois, si vous faites un style d'alimentation et que vous arrêtez, vous en faites un autre et vous arrêtez, vous en faites un autre et vous arrêtez, vous allez aussi abîmer votre métabolisme et en fait, votre métabolisme va devenir résistant. Et ça sera le sujet d'un autre live sur la résistance de votre métabolisme. Et plus vous avez fait le yo-yo, plus c'est dur après, puisque votre métabolisme a mis en place des verrous, et pas juste un, mais genre 10, qui va venir falloir péter les uns après les autres et c'est pas facile, d'accord? Et ensuite, utiliser d'autres marqueurs de progrès qu'on appelle nous les biofeedbacks, mais qui ne sont donc pas la balance, mais qui vont être de l'énergie, l'humeur, la libido, la faim, la fatigue, les fringales, les PR, bref, la performance en elle-même, qui vont vous permettre de voir si vous êtes ou pas sur le bon chemin. Plus de questions, ça y est? Déjà? Déjà, plus de questions. Est-ce que c'est parce que je réponds à toutes vos questions pendant les lives? Moi, je pense que c'est ça. En fait, je vous donne trop d'infos et vous n'avez plus de questions après. Ouais, c'est ça, Marion, elle me dit, c'est ça, tu nous donnes trop d'infos, on n'a plus de questions derrière. Lola nous dit, je l'ai eu ça, plus de seins, plus de libido, plus de règles, stress absolu. Bah oui, bien sûr, en fait, ton corps, en fait, si ton corps a pas assez d'énergie, en fait, il va couper les fonctions qu'il va juger non vitales. Ce qui est donc la libido, c'est pas vital, hein. Plus de cycles hormonaux, ce qui est cycle féminin et tout, ça prend juste de l'énergie, c'est pas vital. Il va couper, pareil, il peut aussi couper tout ce qui va être santé des cheveux, santé des ongles, pas vital non plus. Bref, il va y avoir un milliard de trucs qui vont couper parce qu'en fait, il n'y a pas besoin pour survivre. D'accord? Le but de notre corps, encore une fois, c'est de survivre. Il y a deux buts, survivre et se reproduire, mais survivre en premier. Donc ça veut dire que si la survie est compromise, tout le reste, ça passe à la poubelle. Tout ce qui va être digestion. Tout ce qui va être ouais, libido, tout ce qui va être cycle hormonaux, tout ça, en fait, ça passe à la poubelle, ça ne lui servira pas à survivre. Donc, en fait, il va tout couper. Et c'est super difficile après pour arriver à remonter. Et moi, Lola, je t'en parle parce que je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu avec une alimentation tellement restrictive, avec des compulsions alimentaires tellement importantes que j'avais plus mes règles, que j'étais épuisée, une humeur massacrante, les performances, je t'en parle même pas. J'étais un enfer. Un enfer. Mais même pour moi, hein, j'étais un enfer à vivre et un enfer pour moi, vraiment. Donc, encore une fois, je ne vous parle que de choses que je connais, d'accord? Et des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire que ça, là, la faim, c'était quelque chose qui me tiraillait tous les jours. C'est-à-dire que je me couchais, j'avais faim, je me réveillais la nuit, j'avais faim, je rêvais de gâteau au chocolat, quoi. Alors que le chocolat n'a jamais été mon gros délire. J'ai jamais été un enfant, jamais été une enfant qui était une dingue de chocolat, quoi. Et ben en fait, je me passais ma vie à rêver de gâteau au chocolat. Et en plus, ce qui était horrible, c'est que j'étais coupable de manger le gâteau au chocolat dans mon rêve. On était sur une strate de culpabilité au-dessus, quoi. Donc voilà, la faim, c'est un vrai souci dans nos alimentations, un vrai souci. Et en fait, on s'aperçoit qu'en plus, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on va stresser notre corps encore plus, donc il va être encore plus en mode survie. Donc autant vous dire qu'entre le stress et le fait est qu'il a coupé absolument toutes les fonctions qui ne lui sont pas vitales, en fait, la probabilité qu'on arrive à avoir nos résultats physiques dans cette condition, c'est impossible. C'est impossible. Mais voilà, je parle vraiment d'expérience. C'est important. En fait, si vous écoutez cet épisode de podcast, ce live ou cette vidéo YouTube et que vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est moi. En fait, c'est vous, mais c'est aussi beaucoup d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul dans cette solution, dans ce problème. En fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont en train de réaliser qu'ils ne mangent pas assez. En fait, c'est pas une question de qualité forcément, c'est plutôt une question de quantité et d'équilibre. Et ça, c'est un vrai souci. C'est pas forcément ce dont on parle beaucoup. On va chercher des tips, on va chercher des solutions sur comment manger moins de calories, comment moi, j'ai déjà entendu, oui, il faut manger des pâtes, mais les pâtes d'algues, là. Comme ça, il n'y a quasiment pas de calories. Oui, bon, on peut aussi se faire une soupe d'air et un bol de glaçons, hein. Mais c'est pas l'objectif en fait. Donc si vous écoutez cet épisode de podcast et que ça résonne extrêmement fort en vous, sachez que ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de voir les calories comme étant quelque chose qui doit sortir de votre corps et essayer d'en brûler un max, mais plutôt de voir ça comme une énergie en fait. Arrêtez de penser à calories, pensez plutôt à énergie. Combien d'énergie j'ai besoin qui rentre pour arriver à être performant? Point. D'accord? Arrêtez avec les calories. Essayez de sauvegarder des calories. Essayez de couper des calories. Tout ça, c'est des choses dans lesquelles, en fait, on s'aperçoit que sur le long terme, c'est absolument, absolument contre-productif et qu'en fait, ça ne servira à rien et que ça va juste vous emmener vers des troubles alimentaires ou des compulsions alimentaires qu'on cherche à éviter. Ça, c'était le grand message. Donc, la faim est votre problème numéro un. Si vous avez faim de manière quotidienne et que vous ne mangez pas assez, vous n'aurez pas vos résultats. Clair, net et précis, en tout cas pas sur le long terme. Et vous allez bousiller votre métabolisme et vous allez créer des vraies frustrations et des vraies compulsions alimentaires qui va être après difficile de rétablir. Ok? Hyper important. Vous avez vu que ça me tenait à cœur pour le coup. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Je crois que c'est tout bon. Chouette. Eh ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter déjà une belle journée. Prenez soin de vous, d'accord? Et moi, j'ai hâte de vous voir bah, sur les prochains lives. N'hésitez pas pour celles et ceux qui n'ont pas récupéré leur guide des protéines à le demander sur le groupe. Si vous écoutez le podcast, allez rejoindre le groupe. Vous allez voir, il y a 1 milliard de tonnes de valeur. Il y a des cadeaux tout le temps, des challenges tout le temps et tout. Donc, ça serait vraiment dommage que vous loupiez ça. Pareil, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas, le lien est juste dessous. Allez rejoindre le groupe Facebook, franchement, c'est gratuit. Il y a un max de valeur, tout le monde vous le dira. Et puis, moi, en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao! Thank you.